107.9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, et c'est une information France Inter, une étude d'une ampleur sans précédent qui dévoile le gigantisme professionnalisé des réseaux d'influence chinois partout dans le monde. 2 millions de commentateurs payés par le parti pour faire sa propagande. Nous avons lu ce rapport de l'IRSEM et on vous en parle dès le début du journal après les autres titres, Anaïs.
Les insupportables images de l'attentat à la Belle Équipe projetées aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Dans ce journal aussi, la primaire écologiste remplit ses promesses. Second tour serré entre deux options radicalement opposées, Yannick Jadot contre Sandrine Rousseau. Et puis, une voix familière à la télé ce soir, vous en saurez plus dans 10 minutes.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Mais écoutez, c'est l'actrice préférée des Français et il est un des réalisateurs les plus doués du cinéma. Sophie Marceau et François Ozon viennent nous parler tous les deux d'un film très fort. Tout s'est bien passé en salle ce mercredi. Ils seront avec nous en direct à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on sera ensemble, Léa, pour le grand entretien de la matinale. Justement, Anaïs le disait à l'instant, avec les deux qualifiés au second tour de la primaire écologiste. D'abord, le député européen Europe Écologie des Verts, Yannick Jadot. Et puis, celle qui est arrivée en deuxième position de cette primaire, l'économiste Sandrine Rousseau.
France Inter.
Elle est décidément au centre du jeu géostratégique, la Chine, ciblée par l'accord américano-australo-britannique aux dépens des sous-marins français. Et c'est une information France Inter, l'empire du milieu étend son influence partout dans le monde grâce à un gigantesque réseau patiemment construit ces dernières années. L'IRSEM, le Centre de Recherche et d'Études Stratégiques de l'École Militaire, un organisme parapublic, publie aujourd'hui un rapport fort à propos sur la Chine que la rédaction internationale de Radio France a lu en avant-première. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Et cette enquête dévoile donc cette tentaculaire réseau d'influence très agressif de la Chine.
Oui Anaïs, pour sa propagande, le Parti communiste chinois dispose d'une cyberarmée de 2 millions de commentateurs payés à plein temps et de 20 millions à temps partiel. Pékin utilise des bataillons de trolls, de faux comptes créés par intelligence artificielle, des fermes de contenu basées à l'étranger, notamment en Malaisie. Une unité secrète de l'armée chinoise, la base 311, coordonne les campagnes de désinformation et de manipulation, révèle le rapport de l'IRSEM.
Et un exemple, pendant la pandémie, la Chine a attisé des contre-feux.
Oui, le rapport montre comment Pékin a mené une opération de manipulation pour faire croire que le Covid-19 venait des États-Unis. C'est ce que les auteurs appellent l'opération Infection 2.0, une opération qui s'est appuyée sur un site canadien et un mystérieux retraité canadien installé à Shanghai, un certain Harry Romanoff, présenté comme une sommité académique. Grâce à ces deux sources, les Chinois vont inonder les réseaux sociaux de fake news sur l'origine de la pandémie.
Et Christian, vous avez lu le rapport. Quels sont les pays les plus visés par la Chine?
Alors il y a d'abord l'ennemi proche, c'est-à-dire Taïwan, qui est la priorité de Pékin, mais aussi Hong Kong et le mouvement pro-démocratie. L'Australie, le Canada sont également des cibles. En Europe, la Suède est particulièrement visée, explique le rapport, parce que c'est la porte de l'Arctique et celle de l'Union européenne. En France, c'est surtout la Nouvelle-Calédonie, riche en nickel, qui intéresse la Chine. Pékin, assure les auteurs du rapport, fait tout pour encourager les indépendantistes, notamment en soutenant l'association d'amitié sino-calédonienne.
Merci Christian Chéneau, rédaction internationale de Radio France. Suite de ces révélations à 8h, on parlera des réseaux en action ici en France et des actions concrètes en Afrique. Toute cette enquête est à retrouver en avant-première sur franceinter.fr. Concernant les remous de la crise des sous-marins, ce cri du Premier ministre britannique qui clame, je cite, « l'amour indéracinable de Londres à Paris », le coup de fil que l'Élysée annonce pour les prochains jours entre Emmanuel Macron et Joe Biden et le gouvernement australien qui dit, lui, de son côté, avoir été franc, ouvert et honnête. En bref, encore à l'étranger, en Russie, le parti de Vladimir Poutine s'oriente sans surprise vers une majorité claire à la Douma après 3 jours de vote dans un scrutin législatif marqué par la répression et l'exclusion de presque toute l'opposition anti-Kremlin. En Italie, où les 3/4 des plus de 12 ans sont vaccinés, la mise en place du pass sanitaire a fait bondir les rendez-vous pour la vaccination. De ce côté-ci des Alpes, c'est plus de 80% des personnes qui sont vaccinées. Alors, quid de l'avenir de ces centres de vaccination qui se sont installés dans les gymnases, les salles des fêtes? Encore plus d'un millier sont ouverts. Les élus voudraient récupérer leurs locaux, mais les autorités sanitaires attendent encore de voir Hélène Chevalier.
Très peu d'agences régionales de santé prévoient la fermeture de centres de vaccination à court terme. La grande majorité se contente pour le moment de réduire le personnel et donc le nombre de rendez-vous ou de déménager les sites pour libérer gymnases et autres salles de spectacle. Les autorités sanitaires régionales attendent en fait l'avis de la Haute Autorité de Santé. Cette dernière doit en effet se prononcer dans les prochaines semaines sur la nécessité ou non d'une dose de rappel pour la population générale. Si elle n'était pas jugée nécessaire, la voilure pourrait être considérablement réduite. Les soignants en libéral prendraient alors le relais, explique Gilles Bonnefond, porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
On va avoir, en plus du Moderna maintenant, le vaccin Pfizer disponible en ville à partir du 1er octobre. On a estimé que l'on pouvait être entre 750 000 et 1 million d'injections par semaine, que ce soit en pharmacie ou avec l'aide des médecins ou des infirmiers. Donc ce volume-là est un volume qui est totalement absorbable par la ville sans aucune difficulté.
À condition, insiste le pharmacien, d'être correctement approvisionné en doses. Dans ce cas, seuls les centres de vaccination situés dans les départements avec une couverture vaccinale encore trop basse pourraient rester ouverts.
En Polynésie, la vaccination patine, couvre-feu et confinement maintenus le week-end mais allégé la semaine. Aux Antilles, la Martinique assouplit les restrictions. Aujourd'hui, ce sera au tour de la Guadeloupe. Mercredi. Le prix de l'électricité pourrait continuer à monter. L'UFC Que Choisir a sorti sa calculatrice dans Le Parisien aujourd'hui en France. Plus 10% à attendre au début de l'année prochaine. Ce sera in fine au gouvernement de trancher.
Il est 7h06, deux lignes opposées, qualifiées donc pour le second tour de la primaire écologiste.
Sur 106 000 votants, seuls 3 000 voix séparent Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Les deux autres candidats suivants sont dans un mouchoir de poche, Delphine Bateau et Éric Piolle. Des scores serrés. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Des scores qui dessinent donc une seconde partie de campagne plus radicalisée.
Oui, parce que si on regarde attentivement le pédigré des candidats, tous portaient une écologie de rupture. Alors celle qui l'a portée le plus haut, l'écoféministe Sandrine Rousseau, qui considère que le patriarcat et l'asservissement des plus faibles participent de cette même logique qui vise à exploiter la planète et ses ressources. Delphine Bateau aussi a réalisé un très bon score en défendant une décroissance qu'en réalité tous les candidats ont en partage. Pour reprendre Robert Kennedy en 1968 déjà, la croissance pour boussole est obsolète puisqu'elle mesure aussi bien la production de voitures que le napalm envoyé sur les Vietnamiens. D'ailleurs, l'une des erreurs du maire de Grenoble, Éric Piolle, est de ne pas avoir su vendre son ISF climatique. Tout comme Yannick Jadot d'avoir joué le candidat à la présidentielle avant celui de la primaire. Mais depuis cet été, l'eurodéputé a gommé son petit côté gendre idéal. Ça n'est pas lui faire insulte, son équipe le moque ainsi. Et on rappellera son passé d'activiste chez Greenpeace. Il est quand même le seul à avoir un casier judiciaire pour avoir tenté de s'introduire en 2005 sur l'île Longue, la base des sous-marins nucléaires français.
Est-ce qu'on a une idée de comment vont se reporter les voix ?
Aucun candidat n'a donné de consigne de vote. On ne connaît pas cet électorat qui dépasse largement les militants écologistes traditionnels. Ce qui paraît évident au vu des scores, c'est qu'il est attaché à une certaine radicalité face à l'urgence climatique, le clou sur lequel vont continuer sans doute de taper les deux candidats.
Les deux candidats, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, invités du grand entretien tout à l'heure à 8h20, second tour de cette primaire écolo du 25 au 28 septembre. Troisième semaine du procès des attentats du 13 novembre 2015 et la douleur toujours à fleur de peau chez les survivants et les proches des victimes. Encore une épreuve aujourd'hui. Revivre l'attentat contre la terrasse de la Belle Équipe dans le 11e arrondissement de Paris. Sophie Parmentier.
La terrasse de la Belle Équipe était bondée. Ce vendredi 13 novembre 2015, à certaines tables, on fêtait des anniversaires quand les terroristes ont surgi avec leur Kalachnikov. Dominique Kélémoès se souvient d'avoir été appelée presque aussitôt en tant qu'élue du 11e arrondissement de Paris. Elle était de permanence ce soir-là. Elle se rappelle les secouristes du SAMU et les draps blancs sur les corps quand elle est arrivée. Puis, elle apprend que son fils Victor, 24 ans, est grièvement blessé. Elle le pense parti à l'hôpital. Il est en réalité à quelques mètres d'elle et ne survivra pas. L'insupportable, on l'a déjà vécu, dit-elle, même si elle redoute de revoir aujourd'hui les images de cette terrasse où elle n'a pas pu dire adieu à son fils.
Si j'avais su qu'il était... En fait, il n'est jamais parti à l'hôpital. Il a été posé au petit Bayona, enfin à côté du petit Bayona, parce qu'il était insauvable. Bon, si j'avais su, j'aurais passé le dernier barrage pour essayer de le voir, mais c'est comme ça. Donc tout ça, je l'ai vécu, et donc ça sera sans doute difficile, mais c'est important pour la mémoire de notre fils, et parce que c'est un dernier lien avec lui.
Plusieurs survivants de la belle équipe ont prévu de venir se confronter aux images malgré la douleur, en mémoire de ceux qui ne se sont pas relevés, disent-ils.
Sophie Parmentier qui suit avec Charlotte Piret pour France Inter l'intégralité de ce procès hors norme. Une enquête administrative ouverte hier soir après la diffusion d'une vidéo où l'on voit un jeune homme frappé au sol par un policier à Noisy-le-Grand vendredi. Le jeune homme sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate pour violence et outrage. Son avocat indique qu'il va porter plainte pour violence volontaire.
Il est 7h10, que faire des vieux bateaux abandonnés qui coulent au fond de l'eau ?
Et qui encombrent les fonds marins. C'est impossible de les retirer car ils n'existent pas, comme pour les voitures, de fourrières maritimes. Une députée, La République En Marche, s'apprête à déposer une proposition de loi pour lutter contre cette pollution de la mer. Célia Kiré.
C'est d'abord une question de sécurité. Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône, veut mettre un terme aux rodéos en mer qui se multiplient en Méditerranée. Or, le droit maritime n'est pas adapté. Pour elle, il faudrait pouvoir saisir les jet skis après infraction.
Comment on peut tolérer que des personnes qui n'ont pas le permis puissent aller sur le plan d'eau et faire n'importe quoi, puisqu'ils ne sont pas en connaissance en fait, des règles de sécurité. Et donc, cette proposition de loi, elle propose en premier lieu, quand il y a défaut de permis, quand il y a défaut de contrat de location, que soit retiré l'engin en fait, qui crée toutes ces nuisances et ces risques importants pour les baigneurs.
Et puis, risque pour l'environnement, des bateaux abandonnés coulent au fond de l'eau, il faudrait également pouvoir les placer en fourrière, estime cette députée.
On a beaucoup de situations où des embarcations sont abandonnées. Avec la création d'une fourrière maritime, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir récupérer ces embarcations et donc éviter qu'elles endommagent les fonds marins, qu'elles polluent la mer. Il y a des bateaux qui sont coulés dans des endroits où on essaie de protéger les fonds marins et on estime à plusieurs dizaines, par exemple, à l'entrée du Frioul, des épaves qui ont déjà coulé.
Aujourd'hui, pour retirer un navire, il faut en effet passer par une procédure assez longue de déchéance de propriété. Le but de cette proposition de loi est enfin de créer à terme une filière de recyclage et de démantèlement des vieilles embarcations.
Allez-vous l'adorer à la radio, chers amis auditeurs. C'est l'émission de France Inter la plus podcastée. 50 millions d'écoutes cumulées l'année dernière. La télé nous l'envie tellement qu'elle décline ce soir Affaires sensibles. Première version télé donc à 23h sur France 2. Alors, nouveau défi Fabrice Drouel ?
C'est un élément supplémentaire du développement d'Affaires Sensibles, qui au départ est une émission radio, évidemment, qui devient 3 livres, puis qui devient une pièce de théâtre, et maintenant une émission de télé. C'est une sorte de média global, plus qu'une consécration. C'est un challenge plutôt sympa. Faire une version télé, c'est jamais facile, parce qu'il faut trouver une autre forme de documentaire. Après tout, Affaires Sensibles en radio est aussi un documentaire. Ce soir, pour le premier numéro, on va se pencher sur la campagne présidentielle de 1995. Je rappelle que ça a été la campagne présidentielle la plus âpre et la plus violente de toutes les campagnes, parce que c'est une affaire de famille. Rien de pire que les affaires de famille. Et puis, le Conseil constitutionnel a maquillé les comptes d'Édouard Balladur et surtout de Jacques Chirac, parce qu'il était difficile de dire à la face du monde, bah vous voyez, le président qu'on a élu là, il a eu des comptes frauduleux. Difficile à vendre, hein, quand même.
Voilà, Fabrice Drouel avec Alexis de Meyer. Il sera tout à l'heure chez Sonia de Villers dans l'instant M.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes. Comment lutter contre les déserts médicaux ? Illustration aujourd'hui d'une réussite.